saine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Rebonjour, je continue avec Anne-Laure et avec Sandrine, les pétroleuses de la permaculture, côté chartreuse, côté avant-pays savoyard. Vous avez entendu ce qu'elles nous ont raconté. On va là aller un petit peu plus loin, plus côté maraîchage, mais côté se nourrir dans la nature. Et surtout, vous allez entendre comment une ville de 4 millions d'habitants, 3 millions se nourrissent dans un périmètre extérieur de moins de 8 km, c'est-à-dire à portée de buffle. C'est donc possible. Ça se passe à Cuba, ça tombe bien, parce que la dernière fois, je vous ai dit quel est le pays du monde où, etc. L'école était réellement intéressante et gratuite, ou la santé était totalement gratuite, ou ceci ou cela, malgré que nous ayons un parti unique et une petite chasse aux homosexuels, même une grosse chasse, et que nous ayons quelque chose qui ressemble pas à nos démocraties occidentales, et une espérance de vie bien supérieure à la nôtre et au... Voilà, et ben ça s'appelle Cuba, qui avait fait appel à la permaculture. Voilà. Donc, on va parler de ça dans la deuxième émission, ainsi que comment se nourrir l'hiver avec des plantes sauvages, si jamais la famine arrivait. Donc, je les remercie encore, ces deux pétroleuses. Merci, merci. Voilà, donc, je suis d'accord avec toi. Il va falloir qu'on ait de la production alimentaire, maraîchère, par exemple, pour les légumes et les fruits, qui rémunèrent le producteur, la première des choses. Donc, les prix, ce sont les prix de production. Si c'est local, on élimine beaucoup le transport. Enfin, le transport, il ne coûte pas beaucoup. Quand tu as un porte-container d'un million et demi de tonnes, il ne transporte pas les fruits et légumes, c'est les camions. Mais les camions de 40 tonnes qui viennent du sud du Maroc ou du sud de l'Espagne, le prix du transport est quasiment négligeable dans le prix kilo matière. Donc, vous voyez, on est pris dans un système. Il y a quand même un système, comme il y a dans la nature un système de vie. Il y a un système économique qui nous prend à la gorge, donc il faut qu'on se batte au plan local, et national, et mondial, mais bon, voilà. Alors, on reconnecte le consommateur au producteur local, on recycle tout ce qu'on peut recycler. Est-ce qu'on peut faire son compost quand on a des serres qui produisent des tonnes et des tonnes de légumes? Est-ce qu'on peut le faire avec du fumier qui n'est pas bio?
Si les composts...
Ou est-ce que la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que votre idéal, c'est plutôt la ferme polyculture-élevage que j'ai connue quand j'étais gamin? On avait tout, on avait des oies, des canards, on avait 25 chèvres, on avait 7-8 vaches, on faisait notre pinard, on faisait tout et on bossait 14 heures par jour. Et moi, gamin, j'ai jamais eu un dimanche de ma vie, sauf le bonheur de me balader dans les bois, de temps en temps, après avoir éclairci les carottes. Est-ce que l'idéal, c'est la ferme en permaculture? C'était l'idéal. T'as les vaches qui font caca, t'as les chèvres qui font des crottes super bonnes, t'as les lapins au clapier qui t'amènent aussi des bons... Toi, nous, on faisait entre deux planches, après une pompe qui venait évacuer ça, on n'a jamais composté, C'est pas l'habitude dans les campagnes. Mais, si tu veux, il n'y avait pas besoin d'engrais ni de saloperies. Est-ce que l'idéal de la permaculture est tourné vers le passé de ces fermes polyculture-élevage, qui sont très vertueuses, qui étaient déjà très vertueuses, ou bien est-ce qu'on va vers les low-tech, les serres, les systèmes qui peuvent nourrir une ville de 2 millions d'habitants comme Lyon, dans un périmètre, disons, de 50 km, en gros, et alors qu'est-ce qu'on peut introduire de permaculture là-dedans, qui ne soit pas de l'industrialisation déguisée, quoi?
Dans les milieux urbains?
Oui, dans périphérie urbaine. Parce que là, on parle de se nourrir 3 ou 4 sur une ferme.
Il y a l'exemple de Cuba, où la Havane produisent 80% de leurs ressources en légumes, par exemple. Ce qui est considérable pour une grosse ville. Mais ça demande de végétaliser tous les petits recoins qu'on peut trouver. Sur les toits, sur les murs,
dans les parcs. Et de valoriser les déchets le mieux possible.
Voilà, c'est ça.
Cuba.
Donc c'est possible.
Période spéciale 1990. Les soviétiques deviennent les Russes. Ils abandonnent le communisme de caserne pour prendre le capitalisme prédateur.
Ils n'ont pas eu le choix, ils ont réagi.
Ils livrent plus de pétrole à Cuba.
Voilà.
Les Américains resserrent le blocus et Cuba, ils perdent combien? 8 à 14 kilos par personne. Plus de congélateurs, plus d'électricité, puisque c'était tous des groupes électrogènes. Mm-hmm. Plus de bus, parce que le bus, il n'y avait plus de carburant. Et voilà. Mm-hmm. 5-6 années. Et ils font appel à...
Mollison.
Voilà. Enfin, ses amis, pas lui.
Je ne sais pas que lui en est détail allé directement. Si c'est lui en personne, mais enfin,
en et alors, cas, encore la permaculture a sauvé Cuba. 12 millions d'habitants, 4 millions à La Havane, 3 millions qui mangent dans un périmètre de 8 km du centre-ville. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui les a sauvés? Voilà, on revient au problème. Posé autrement, si tu veux, tu vois, il y a, y a nous, des petites fermes, des maraîchers vertueux, et la permaculture, puis après on parlera des grands principes de la permaculture. Qu'est-ce qui a sauvé Cuba et ses 12 millions d'habitants de la famine?
Bah, la production alimentaire, justement, sans cette ressource de pétrole, et d'utiliser un maximum les espaces, puisque là on est en milieu urbain, donc concentration d'humains, donc forcément beaucoup moins d'espaces cultivables. Ou
tous les parcs publics, on y faisait des patates.
Donc,
des fruits.
Ça a demandé certainement une grande réactivité, quoi. Ouais.
8 km quand même de périphérie, où il n'y avait pas de bidonville, qui ont été mis en agriculture, à portée d'un buffle. Réhabilitation des buffles. Ouais, ben moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on s'en sauvera si 50 km autour de Lyon, on fait de la permaculture.
Ou avec que ça demande
traction animale.
De désengorger les concentrations humaines.
Ah, alors, qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus?
Ben, peut-être que...
J'ose jamais faire une émission là-dessus. C'est déconcentrer les villes, sinon on va tous crever dans les villes de chaleur et de manque de nourriture et de grandes pannes électriques géantes.
Si on veut pouvoir vivre, il faut forcément l'espace cueillable ou cultivable.
Donc toi, tu es pour repeupler les campagnes, refaire des veillées, des cafés citoyens, des débats. Que à Saint-Christophe, ville morte, 200 habitants, 180 habitants, je ne sais pas combien, et ben ça renaisse avec des tas de gens de Lyon qui reviennent faire de l'agriculture, l'artisanat, produisent et consomment sur place. Voilà. Et vous réinstallez le tramway aussi, qui traversait la Chartreuse entre Saint-Béron et Saint-Égrève.
Il y avait beaucoup de trains.
Et plus de voitures, voilà.
Parce qu'à bande off-bande, il faut plus.
La bande passante.
Bande passante, et on ne peut plus y aller en bagnole. Oui, mais ils posent quand même leur bagnole à un quart d'heure de marche.
C'est ça.
Ouais. Et comment on remplace la bagnole dans la permaculture? Puis on revient à comment on nourrit les villes.
C'est déjà limiter les besoins de transport, de matière, essayer de.
Tout relocaliser.
De regrouper aussi les besoins de déplacement.
Mutualiser le véhicule s'il y en a, trouver une autre manière de remplir les réservoirs.
Ouais.
Mais après, et tu les remplis avec quoi les réservoirs d'une autre manière que de ce putain de carburant merde du diable qui a dévasté le monde, qui s'appelle le pétrole. Après que le charbon ait dévasté le monde un peu moins, le pétrole, on peut dire qu'il a largement dévasté le monde. Hein. C'est pas à peine de parler du pipeline qui traverse les terres ancestrales des Indiens, qui crève, des Africains qui crèvent du pétrole, qui sont obligés de percer les pipelines pour vendre quelques bidons histoire de survivre, alors que tout le pognon s'en va directement multinational. Tu m'avais dit, il fallait pas que je parle du capitalisme. C'est toi qui me donnes sur un pied. Donc, avec quoi qu'est-ce que tu mets dans le réservoir pour rouler un petit peu en bagnole, histoire quand même d'aller chercher un peu de papier cul à Saint-Laurent?
Bah, moi pas, mais on peut mettre de l'huile dans la voiture.
Il sera pas bio. Hein.
On peut mettre de l'huile de friture dans un réservoir si la voiture est adaptée.
Voilà. Tu filtres ton huile de friture.
Moi, je le fais pas, non.
D'accord.
Non, ça a marché pendant.
Tu produis un peu des protéagineux sur ta ferme.
Il faudrait, ce serait l'idéal, ouais.
D'avoir un petit peu d'huile de colza.
À voir. Mais dans le système, il y aura sûrement un peu de plantation qui permettrait ça, on verra.
Parce que vous avez un beau paquet d'hectares.
On a une dizaine d'hectares, mais qu'on partage à plusieurs.
Allez.
Entre un verger, pépinière et les brebis, ouais. Et
puis ça fait déjà les brebis, ça bouffe un sacré paquet d'hectares.
Les légumes, on parle aussi de faire de la semence, voilà, avec un système agroforestier qui utilise justement les ressources au mieux, comme on en parlait à l'instant.
D'accord.
You meet me halfway. down that I just might drown, but they don't know me like I know myself. They try to tell me to stop chasing my dreams, I let it slide, don't touch my pride. My imagination's what's brought me this reality. Take a look at what I've created, I've got a feature now that I'm making it. Do what I love for real, I don't fake it. Go with what I feel, I'm pushing the limit. The limit's the sky.
Mais là, on est quand même dans des systèmes plutôt de débrouille semi-individuelle ou semi-collective, comme on peut dire, où on fait des niches, des oasis, des ce que tu voudras, pendant que le reste du monde est ravagé par les multinationales. J'y reviens pas. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas trouver une solution chartreusoise locale pour se mettre dans les réservoirs un petit quelque chose qui soit très peu impactant en matière de gaz à effet de serre, de pollution, comme par exemple l'alcool de bois, refaire des gazogènes en chauffant tout simplement du bois, qui en chauffant dégage du méthane, faire tourner un moteur. Mm-hmm. Vu mon âge, j'ai connu le camion au gazogène. Ben, il roulait pas vite. Hein.
On peut pas t'en dire plus, nous, on n'a pas coutume.
Oui, mais vous y avez réfléchi, que vous avez en Chartreuse des chartreux qui ont inventé l'alcool de bois. Ça, et qui coulaient la scie en 1500 avec l'alcool de bois mélangé à du charbon, non, à de la tourbe, non, de la boue des étangs de Chartreuse.
D'accord.
Tu vois, qui est riche en carbone. Mmh. Ils imbibaient ça avec la distillation du bois qui fait de l'alcool méthylique, qui est mortel, hein. Mortel, hein, c'est ça, si tu bois ça, t'es mort, mais qui pourrait faire un petit carburant pour Chartreuse. Donc, ce qui a clé tout ça, c'est une autre mode de vie. C'est-à-dire, on change aussi la consommation.
Bah oui.
On arrête de se goinfrer.
Il faut accepter de ralentir un peu.
Alors, à qui on demande de ne pas se goinfrer? Aux gus, là, aux 5 millions qui ont un petit RSA à 452 € par mois? Ou aux 10% de la population française qui a plus de 7000 par mois? Ou aux... combien on a de milliardaires? Nous, on a 70 en France. Ou aux 3 600 000 millionnaires que compte la France, à qui on demande de faire de la sobriété?
Bah, si on s'y met tous.
Ah ouais? Parce que les riches, tu crois qu'ils vont s'y mettre?
Ça serait bien, ouais. Mais après...
Est-ce que vous adressez à quel public vous adressez en tant que penseur de terre?
Bah nous, on s'adresse à...
Moi, je pense qu'il faudrait que vous fassiez des formations au niveau des élus, au niveau de la population, celle la plus pauvre, pour des solutions d'auto... production et relocalisation d'installations sur les terrains de...
Moi je pense que le changement il viendra des petits gens entre guillemets et
c'est eux qui ont intérêt.
Ouais.
Soit c'est ça, tout soit ils crèvent la gueule ouverte.
L'homme je pense qu'il agit uniquement par besoin, donc tant qu'on a de l'argent on n'a pas besoin de cultiver, si je fais un gros raccourci. Voilà. Et je pense que le changement, il viendra de là.
D'où des formations à prix libre.
Aussi.
C'est-à-dire qu'on puisse vous adresser plus à des gens, parce que la permaculture, c'est une affaire de bobo entre nous. Hein. Non ? Pas en Chartreuse.
C'est une histoire d'avenir.
Moi, toutes
et
les soirées.
Et de façon de vivre.
À part la vôtre, toutes les soirées permaculture, c'était il fallait raquer, écouter des banalités sur. Mais c'est surtout il fallait raquer. Moi, le pire, c'était Alonso, là, l'espèce de pistolet que j'ai rencontré à Lyon, qui faisait son petit stage permaculture, 1000 euros, mais sans la nourriture et sans l'hébergement. Aujourd'hui, la permaculture, elle est la proie du capitalisme marchand.
C'est vrai qu'il y a...
Ça, c'est une occasion de faire du pognon, les filles. Vous avez rien compris.
Tout,
vous faites
tout.
Une semaine à 1000 euros, et puis vous n'avez pas à vous emmerder à faire des légumes, des serres, à faire des...
Il y en a qui sont bien saisis. Après, les objectifs des créateurs de la permaculture, de Bill Mollison et David Holmgren, c'était que ce soit un mouvement populaire accessible à tous.
Voilà.
Et qu'on puisse tous s'y mettre, justement.
Je l'ai, le Bill Mollison, hein. Et Bill Mollison a sauvé Cuba de la famine.
Si on peut faire un raccourci comme ça, ouais.
Eh ben oui, parce que les Cubains, ils n'ont pas été cons.
Les Cubains,
pour une fois,
sauvés,
enfin, le pouvoir un peu de parti unique, de fidèles et tout ça, qui chassait un peu l'homosexuel, qui chassait un peu l'opposant politique, libéral, qui a laissé partir 700 000 Cubains sur des bateaux vers la... Puis maintenant, il y en a beaucoup qui le regrettent parce que maintenant, ils se prostituent, ils n'ont plus de boulot, ils sont gras, ils sont obèses. Alors que les Cubains ont une espérance de vie supérieure de 4 années à celle des USA, pays dont le PIB est certainement 50 fois supérieur à Cuba, qui est quand même dans les derniers 30-40 pays les plus pauvres du monde. Hein. Mais ils ont mis le paquet sur l'alimentation, ils ont mis le paquet sur la santé, ils ont mis le paquet sur l'école. Résultat des courses, ben, ils ont une espérance de vie qui va être supérieure à celle des Français, en tout cas qui est déjà supérieure à celle des Américains. Donc la permaculture, c'est l'arme des pauvres pour essayer de sauver leur peau. Et par rapport au réchauffement climatique, alors vous faites quoi? Donc je vous ai repositisé le débat, hein, alors, hein, tu ne pouvais pas, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au réchauffement climatique? Parce que Bande of Bands, vous êtes bien placé, Bande Passante, vous êtes bien placé pour à 800 mètres, enfin à 600 mètres, pour déjà amortir un peu le choc, même si vous n'avez plus de neige, plus rien.
Moi, la première chose à cultiver, c'est l'eau d'abord. C'est la première des choses à cultiver. Et pour ça, il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en place pour la freiner, éviter qu'elle sorte du système. C'est ce qu'on a tendance à faire, hein, un peu partout, même en ville. Alors, c'est de moins en moins le cas, justement, c'est en train d'être pensé. Mais on fait fuir l'eau, on ne veut plus la voir, on l'éjecte de nos milieux pour qu'elle retourne à la mer. Mais... Il y a 2% d'eau potable sur la planète, dont seulement 0 et quelques pourcents qui sont utilisables par l'homme. Donc la première chose à faire, freiner l'eau dans nos systèmes, récupérer l'eau, d'abord celle qui vient du ciel, sur nos toitures, et puis l'eau de ruissellement.
Donc,
avant d'aller piocher l'eau en profondeur, c'est d'abord l'eau superficielle qu'il faut qu'on arrive à freiner et qu'on arrive à réinfiltrer dans nos systèmes progressivement. Cette eau, de fait, va retourner ensuite dans les cours d'eau et dans les nappes phréatiques en contrebas, par percolation. Donc la première chose à faire, cultiver l'eau. Et puis après, dans les systèmes qu'on met en place, c'est diversifier au maximum. Pas tout baser sur une seule espèce, pas tout baser sur une seule variété. Parce que si un jour on cultive que de la pomme en Chartreuse et puis que de la vache et puis qu'il y a une maladie qui arrive ou le réchauffement, hop, les pommes ça marche plus.
Et ben c'est ce qui se passe avec l'agriculture industrielle.
Voilà, donc
regarde l'amande en Floride, il n'y a plus d'amande.
C'est et même économiquement pour
80% de la production mondiale d'amande, c'était en Floride, mais il n'y a plus d'amande.
Ouais.
Les prix ont doublé.
Alors on peut pas encore mettre d'amandier en Chartreuse. Comme ils font des essais sur Saint-Marcellin. Mais
Saint-Marcellin,
ouais.
En Isère.
Oui, oui.
Ils veulent mettre des amandiers.
Oui, ils sont en train
Ils anticipent sur le réchauffement climatique.
Ouais,
parce qu'en principe, l'amandier, c'est...
Ils viennent de planter au centre d'expérimentation de la CEFRA, ce doit être Chat ou Saint-Marcellin.
Ouais, ça a marché, hein. À l'allure où fonce le réchauffement. Ouais. Ouais.
Et puis, on parle de pacaniers aussi, pour avoir des noix de pécan. Après ça c'est pour
ça c'est des cultures à haute valeur ajoutée pour faire de l'argent, mais il faut encore en face qu'il y ait des bobos qui aient de l'argent pour acheter, parce que très cher l'amande. Mais il y en a plein les vignes en Ardèche, il n'y a pas une vigne en Ardèche où tu n'as pas son amandier.
C'est actuellement comme ça parce que l'offre ne répond pas à la demande. Après, plus on va en cultiver et puis plus ça va se libéraliser. Mais voilà, diversifier.
Dans les diversifications des espèces cultivées.
Mais diversifier dans tous les sens aussi, pas uniquement pour...
Anticiper sur le réchauffement aussi.
Eh bien, pas forcément, parce que...
Vous allez faire de la vigne à bande.
Ouais, il va y avoir du raisin de table.
Bah oui.
Et du
moi, les pins, je suis fiero de dire que j'ai 15 pieds de vigne. Bon, je n'ai pas quoi faire du raisin. Tout le monde peut en bouffer. D'ailleurs, je l'ai mis le long de la barrière. C'est ce que vous allez voir ce soir en venant manger à la maison.
Ou pas.
Et du coup, une autre fois.
mais voilà, diversifier. Mais ce que je veux dire, c'est pas que dans ce sens-là, pas que dans le sens du réchauffement. Parce qu'il suffit d'avoir un hiver rude et puis on n'a pas eu le taux de froid pour l'hiver. Et puis l'arbre ne va pas pouvoir débourrer. S'il n'y a pas eu un taux de froid suffisant. Donc il faut... Et puis on parle de réchauffement, mais si le Gulf Stream s'arrête, ce ne sera peut-être pas le réchauffement, ce sera peut-être le Canada ici.
Oui.
Exact.
Et du coup, la diversité dans les deux sens. Voilà, pas uniquement sur mettre du citronnier en chartreuse, quoi.
Même inspiration que les Incas, donc 17 variétés de maïs ou 37 variétés, je ne sais plus. Une pour un cas de bruyère, une il y a beaucoup d'eau, une il n'y a pas d'eau,
voilà.
Une non.
C'est ça.
Et on étage tout ça.
Bah dans l'idée, alors, c'est ça, avoir plusieurs profils de plantes qui vont pouvoir correspondre à...
Eh bien, c'est ce que vous allez m'expliquer dans le jardin tout à l'heure. Et pour toi, donc toi, tu dis qu'on peut ne pas bouffer de légumes. Toi, tu ne bouffes pas de légumes, tu manges que des plantes sauvages. Qu'est-ce que ça
beaucoup.
Veut dire
bah, ça veut que... dire cueillir beaucoup.
Et alors,
puis
qu'est-ce que tu manges
Planifier ses ressources, planifier ses cueillettes sur l'année. Donc ça va être par exemple une grosse cueillette de châtaignes en automne pour couvrir tous les besoins de l'année. Donc après, si on veut pousser tout ça, on peut aller jusqu'à faire ça, transformer sa châtaigne, faire son pain, enfin faire sa farine, tout ça. Après, bah il y a tout.
Et parce que les châtaignes, ça se conserve pas longtemps. Hein.
Bah ça se sèche. Ça se sèche ou ça peut se conserver aussi.
Oui, il faut les sécher, mais il faut de l'énergie pour les sécher.
Tout dépend de là où on vit.
Non, pas forcément.
Parce que.
Tu es au soleil.
Non.
Les vers se mettent vite dedans.
Alors pour les vers, il faut les mettre dans l'eau pendant une semaine et changer l'eau deux fois par jour. Les vers sortent et puis après on peut sécher les châtaignes et pas avoir de problème.
D'accord.
Mais c'est plus aussi goûtu qu'une châtaigne fraîche derrière, voilà. Mais ça se mange, c'est quand même
ça
à manger.
Ça se mange, oui, d'accord.
Cut off all of his friendships. He's on the field working hard.
Donc toi, tu stockes les châtaignes, tu stockes la courge, tu stockes... Non, la courge, j'en cultive pas.
Les fèves des hêtres. Un petit peu, ouais.
Bah, que après, des choses que tu vas cuire dans la nature.
Ouais, bon, essentiellement.
Parce que vous voyez, quand on dit « sans la nature, pas de futur », les amis, c'est que... On a beaucoup parlé de maraîchage intensif et industriel. Bah, peut-être qu'il y a une alternative à la blette. Donc toi, tu manges en alternative à la blette et aux haricots verts et tout. Là, ça.
Par exemple, le kénopode que tous les maraîchers détestent. Moi, je l'adore. Voilà. Ce qui pousse tout seul et donc, c'est très bon.
Eh ben oui, ça fait un excellent épinard.
Voilà, exactement.
Ouais, moi j'en ai.
Et on peut même garder les graines après pour un substitut de quinoa.
Ah oui, voilà. D'accord. Le kénopode, les amis, le prototype de la mauvaise herbe, vous savez, qui grimpe. Les graines quinoa et la feuille spinach, avec un peu de crème ou avec un peu d'oignon.
Ouais.
Ouais, juste revenu, 2 minutes dans la poêle. Et qu'est-ce qu'il mange encore comme légumes ? Vous voyez, les amis, la nature, elle pourrait nous nourrir sans trop d'efforts.
Bah, y a la classe.
Si nous n'étions peut-être pas si nombreux dans les villes, et si les villes venaient aux champs. Donc, qu'est-ce que tu manges d'autre ?
Bah, y a la classique ortie, qui est la plante qui correspond aux besoins alimentaires de l'homme dans toute sa splendeur.
Voilà. Pas de soupe sans ortie, les amis.
Pas de soupe sans ortie.
Pas cueillie dans les talus où on a déchargé toutes les saloperies du monde, mais l'ortie se bouffe toute l'année.
Tout à fait.
Et t'en fais quoi aussi ? Bah, outre la soupe ?
Ben, ça peut se faire dans une quiche, dans un gratin.
Un gratin.
Ouais, donc vraiment toutes les recettes qu'on peut imaginer.
Et puis qu'est-ce que tu manges d'autre encore ? Parce que là, il ne reste plus qu'une minute.
Bah, il y a tous les fruits. Les pommes, les prunes, les pois.
Donc tu as un séchoir où tu sèches tes...
J'ai un séchoir où sèche mes plantes, qui n'est pas pensé pour sécher des fruits. Mais c'est quelque chose...
Il y a
le raisin, c'est un petit élément qui manque. Non, j'ai pas de raisin.
Parce que là, s'il y a quelque chose de productif, ouais. Je me rends compte dans nos régions, c'est incroyable de voir ma vigne. Mais bon, j'ai du bacot, il fait peut-être 50 mètres de long. D'ailleurs, la merlesse m'a tout bouffé. Il y a une merlesse, elle s'approche de moi, elle reste à 50 cm, elle me bouffe toutes mes grappes.
Bah,
que faire ? Elle est très sympa. Elle s'envole pas quand je m'approche, ouf, elle part, elle fait juste 50 cm. Je m'approche, elle fait encore 50 cm, et elle retourne la tête, elle se fout de ma gueule, et elle me bouffe toutes les grappes de Baco. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je lui mets un coup de fusil ?
Bah non. Il faut partager.
Il faut vraiment partager. Et alors, avec les mulots, qu'est-ce qu'on fait ? Pour finir, moi j'ai une invasion.
Ouais,
mais c'est de ma faute, j'ai trop paillé.
Ouais, c'est pas évident. Les mulots, on a beau essayer de réintroduire des prédateurs du mulot.
Voilà.
Ouais.
Serpents, renards, fouines, blaireaux et compagnie.
Voilà.
Mais c'est pas toujours suffisant.
Mais le chat, c'est pas suffisant non plus.
Non, puis les chats sont aussi responsables d'une grosse hécatombe au niveau des oiseaux. Et
voilà, tu mets un chat et qu'est-ce qu'il fait ? Il passe son temps dans le cerisier.
Et sinon, les mulots, ce qu'il faut, c'est déranger la terre. Il faut. Alors. Peut-être pas travailler la terre, mais travailler avec des engrais verts, par exemple, et puis limiter le paillage.
D'accord. Qu'est-ce que tu manges d'autre pour finir, pour cet hiver, alors ? Qu'est-ce que tu vas manger à Noël ? Parce que bien joli de dire les plantes sauvages, mais à partir
de
novembre, t'en as plus ?
C'est un jour d'exception.
Hein ?
Je dis à Noël, je suis invitée, c'est un jour d'exception.
Bien joué. Mais tu vas bouffer à la bande forcément. Qu'est-ce que tu manges en novembre, décembre, janvier, février ?
Mais il y a encore plein de choses, même en janvier, février, il y a déjà des primes verts, par exemple.
À toi, tu manges la fleur de primevère.
La feuille, la rosette complète.
J'ai jamais pu manger la feuille de primevère.
C'est très très bon.
Ah bon. Donc tu manges les primevères, oui, mais à Noël.
Les cynorhodons.
Cynorhodons, ouais.
Ah oui, ça c'est bon, oui, d'accord.
Tous les stocks de gland aussi, du pâté de gland. J'avais essayé de faire ça.
Ouais. Mais le gland, il faut que tu le fasses geler.
Non, c'est pas qu'il faut le faire geler, il faut le cuire à plusieurs eaux.
Ah, pour enlever de l'amertume, ouais.
Voilà.
Et ça remplace la châtaigne, parce que là, du gland, on a tout l'hiver. Ouais. Et puis, encore d'autres, à part l'écorce des arbres.
Il y a les fênes de hêtre. Ça, c'est les fruits.
Les feuilles de hêtre.
Non, les fênes, c'est les fruits du hêtre.
Ah, mais les fruits, oui, d'accord. Ouais. Tu ramasses ça, toi.
Ouais.
D'accord.
Donc, ça, c'est
et c'est très
bon.
Nourrissant, la graine.
Et c'est très bon. C'est plein d'huile, on en faisait une huile à une certaine époque.
Et encore, toujours entre décembre et... Parce que moi, j'aurais plutôt des stocks
ça
de courge, de pommes, de...
Ça dépend de là où
moi,
on
j'ai mis des
néfliers,
d'avoir des nèfles.
Les stocks de farine de
des nèfles,
de
tu peux manger
de
l'hiver.
Des nèfles. On peut faire des stocks de farine de feuilles de tilleul, par
feuilles
exemple.
Feuilles de tilleul,
ouais. Les feuilles de tilleul, vous on faites peut... la farine. Comment on fait ? Vous faites sécher la feuille, vous broyez.
Je l'ai fait sécher, je l'ai fait broyer. Ouais.
Parce que moi, la feuille de tilleul de fraîche, c'est très bon.
En salade.
On peut manger en salade.
Absolument.
Mais même le frêne. Encore que pas trop, non. Tout, c'est pas le frêne, non.
Non, mais avec le frêne, on peut faire la frênette, par contre, avec le frêne.
La frênette, c'est quoi?
C'est une boisson pétillante.
Ah d'accord, tu mets les feuilles à fermenter.
C'est ça. Alors normalement, le sucre est naturel, il est amené par les pucerons, ça fait du miella, etc. Mais sinon, on rajoute un peu de sucre pour être sûr si on les ramasse pas la bonne saison. Et puis on a une boisson pétillante une semaine après.
Une semaine trempée dans l'eau sucrée.
C'est ça.
La frênette.
Ouais, voilà. Traditionnellement, ils rajoutaient de la chicorée, ils rajoutaient des racines de plantes pour donner du goût aussi. Mais uniquement les feuilles dans de l'eau sucrée, ça marche, ouais.
Et comme autres légumes racines ou racines naturelles, hein?
Il y a les campanules, par exemple, il y a les carottes. Bon, là, par contre,
les carottes sauvages, oui, mais il n'y en a pas au mois de décembre, là, je te parle, décembre.
Ça dépend où on se trouve, si effectivement on est sous 50 cm de neige, mais les racines, ça peut très bien se cueillir durant tout l'hiver.
Ouais, c'est vrai.
Racines de pissenlit aussi.
Vous voyez les amis, sans la nature, pas de futur.
Racines de bardane. On a écouté la bardane.
Hein. Après, les cueilleurs étaient nomades aussi.
Donc, est-ce qu'on doit stocker pour l'hiver dans nos régions montagneuses ou est-ce qu'on doit suivre les beaux jours? Question encore que je me pose.
Ben vous voyez, on fera une nouvelle émission avec Sandrine, Anne-Laure, le jour où elles accepteront de finir dans mon jardin et qu'on échange sur les techniques anti-mulots. Le mulot a le droit de vivre, mais pas de bouffer le quart de la récolte. Vous voyez, il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes. Et ben merci à elle. Vous voyez qu'on peut se nourrir dans la nature. Vous aviez à ma gauche Sandrine, cette coquine, elle fait aucun légume. J'ai pas dit cette feignasse. Hein. J'ai dit cette coquine, elle fait pas de légumes. Il faudrait qu'elle s'occupe aussi du bitume qui envahit son patelin à Yenne. Voilà, et puis de la pollution des nappes phréatiques à Yenne par les élus qui ont mis des décharges d'incinérateurs sous le rond-point à la sortie du tunnel. Comme ça, l'eau sera pas bonne. Et Anne-Laure à ma droite qui, elle, dit que la première alimentation, c'est l'eau et qu'il faut la récupérer. Et bienvenue chez moi où il y a un bassin qui récupère l'eau des toits. Mais il y a une pompe électrique qui récupère l'eau du puits. Et ça, quand tu auras la panne géante d'électricité en plein mois d'août...
Plus d'eau,
plus de blettes. Et ben j'irai chez Sandrine qui va m'apprendre à bouffer tout ça. Ouais, je pense que je pourrais presque me nourrir sans blettes, mais peut-être pas de tout. Merci beaucoup. Sans la nature, pas de futur, les amis. Vous voyez, il reste beaucoup à explorer. Ne loupez pas les stages et les rencontres avec ces pétroleuses qui s'appellent les penseuses de terre ou penseurs de terre. Prochain week-end, prochaine formation.
Pas de formation. Si, il y aura une formation jardin-forêt en octobre. Ouais. Et puis il y a un
jardin-forêt en octobre, plus précis que
et sur la deuxième quinzaine. Et on a un chantier de plantation le 2 ou 3 octobre, c'est le samedi, j'ai pas la date en tête.
Chantier de plantation d'arbres fruitiers
D'une forêt nourricière à Yenne, chez des particuliers sur 5000 m² qui nous ont sollicité. Et là, ce sera une journée de plantation partagée par tous, où on parlera aussi des arbres.
C'est quand ça?
C'est le samedi, le premier samedi d'octobre, ça doit être le 2 ou 3.
Premier samedi d'octobre à Yenne.
C'est ça.
Design d'un jardin forêt.
Alors, pas design, on va planter les arbres. On a une centaine d'arbres à planter.
Oui, mais vous allez faire un petit peu de baratin et de.
Le design est fait. Et déjà,
le design est fait.
Le design est fait, il va être présenté et on va faire un baratin sur les arbres. Et en quoi les arbres sont notre avenir aussi.
Et ensuite, on passe aux travaux pratiques.
Ouais, ce serait les deux sur la journée, ouais. On a d'accord. Une centaine d'arbres.
Donc, ça, c'est des gens très sympas qui
ils
vont
sont
faire planter
sympas.
Leur truc, voilà, par les.
Ouais.
Oui, d'accord. Non, ça, c'est le premier samedi d'octobre.
Le premier samedi d'octobre.
Et ça coûte combien, ça?
Planter une forêt, c'est ouvert à tous. Et il me semble que le repas...
Et en échange, on a quoi? Des heures de travail gratuites dissimulées?
On a le plaisir d'avoir planté un arbre, déjà. Et puis, on a...
Oui, mais après, c'est le bobo qui en profite.
Et puis... Ah. André, tu les connais pas.
Je les connais pas. Non, voilà, tout à fait. Je connais la technique en Ardèche.
Et...
Les gens qui ont fait les façades en.
Alors, on n'en est pas, on n'en est pas à ça.
On n'en est pas là, ouais.
Et puis, vous avez une intervention de ma part justement dans la journée.
D'accord.
Voilà, parce que l'idée c'est pas juste de planter, mais aussi d'apprendre et de pouvoir refaire chez soi.
D'accord.
Et puis, il me semble que mes
donc, la journée, elle est gratuite puisqu'on plante.
Tout à fait.
Parfait. Et là, de ce côté, et là, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme soirée et autres? Tu n'avais pas dit qu'à Bande, il y avait quelque chose?
Bah, à Bande, il y a toujours quelque chose, mais c'est pas toujours très organisé.
Mais non, alors, mais il faut donner la formation.
Oui.
Bon, ben, on la donnera hors antenne.
Tout à fait.
Il n'y a rien dans la prochaine période, là.
Ben, il y a ce souffle en octobre, et il y aura un chantier aussi de plantation à Yenne un peu plus tard dans l'automne. Voilà. Mais cette année, on va...
Plantation de quoi? C'est ça la question.
De fruitiers aussi. On va être, cette année, on est beaucoup sur...
Sur ton terrain.
Sur des plantations, terrain,
sur,
mais
des, sur d'autres projets aussi. Ouais. Voilà, on...
Il y a différents projets de plantation.
Et des soirées, parce que peut-être que ceux qui nous écoutent, là, ils seraient contents d'avoir une soirée avec vous, comme vous aviez fait à Volan. Mais où il y avait peu de monde, peut-être c'est l'occasion, jamais, bah, peut-être de donner l'info et puis d'avoir du monde. Parce que moi, il faudrait que vous soyez dans les salles des fêtes, expliquer aux gens.
Ouais. Il n'y en a pas de prévu pour l'instant. Non.
Ah bah, c'est bien dommage.
Et vous pouvez nous solliciter,
voilà,
pour des informations.
Il faut écrire à...
Au Penseur de Terre.
Penseur de Terre, tout attaché.
Penseur avec un A au pluriel, ouais. P-A-N-S-E-U-R-S de Terre.
Tout attaché, @gmail.com. Merci beaucoup.
C'était La Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.